VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisco, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. RCA, le Premier ministre centrafricain Mathieu Simplice Arangi a condamné ce jeudi les propos du chef de guerre Noureddine Adam, qui a traité mardi le président Faustin Archange Touadéra de criminel et menacé de marcher sur Bangui en évoquant une ligne rouge dont le gouvernement centrafricain approche selon lui en réarmant l'armée nationale. Noureddine Adam déclare que le président Touadéra est un criminel, mais qui est plus criminel que qui ? A lancé le Premier ministre Sarandji sur une radio locale. Pour sa part, la MINUSCA, la force de l'ONU sur place depuis 2014, a déclaré qu'elle ne permettra pas que la paix et la stabilité de la RCA soient perturbées par qui que ce soit. Dans un communiqué, la MINUSCA ajoute que l'ONU demeure déterminée à appuyer le gouvernement centrafricain pour prévenir toute tentative de mettre en péril les acquis de la restauration de l'autorité de l'État. République démocratique du Congo, Leïla Zeroughi, une Algérienne ayant déjà occupé plusieurs fonctions importantes à l'ONU, a été nommée à la tête de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, par le patron des Nations Unies, Antonio Guterres. Également représentante spéciale du secrétaire général dans le pays, Madame Zeroughi doit prendre ses fonctions en janvier, en remplacement du Nigérien Maman Sidikou, qui est arrivé au terme de son mandat en RDC. Guinée équatoriale, une cinquantaine de militants du parti d'opposition Citoyens pour l'innovation sont détenus et une centaine d'autres réfugiés depuis plusieurs jours au siège du parti à Bata pour échapper à des arrestations nocturnes à domicile. Le point avec Solange Nyamulisa.
Gabriel C. Obiang Obono, leader national de Citoyens pour l'innovation, a fait savoir qu'une cinquantaine des militants de son parti sont détenus à la prison d'Evinayong sur la partie continentale de Guinée équatoriale. Il accuse les autorités de maltraiter les femmes et les jeunes en leur confisquant leurs cartes de membres du parti, une pratique qui relève, selon lui, de la persécution politique. Pour sa part, Boniface Nguema, deuxième vice-secrétaire général de ces partis, affirme que plus de 100 militants, craignant d'être arrêtés, se sont réfugiés au siège du parti à Bata, la capitale économique, pour fuir les séquestrations. Le Parti citoyen pour l'innovation rapporte que les arrestations nocturnes de ces militants ont commencé peu après les élections générales du 1er novembre, où il a obtenu environ 5% de voix et un député, l'unique représentant de l'opposition sur les 100 parlementaires que compte l'Assemblée nationale équato-guinéenne.
Zimbabwe, l'ancien chef de l'armée zimbabwéenne qui a dirigé le coup de force ayant mis fin en novembre à 37 ans de règne du président Robert Mugabe, est officiellement devenu ce jeudi l'un des deux vice-présidents du pays. Le général à la retraite Constantino Chiwenga, 61 ans, a prêté serment lors d'une cérémonie à la présidence à Harare en jurant d'observer, respecter et défendre la constitution nationale selon l'AFP. Au Mali, 3 soldats maliens tués ce jeudi dans une explosion de mine dans le centre du pays. Sur son site internet officiel, l'armée malienne annonce aujourd'hui que l'incident s'est produit dans le secteur de Boulkessi, région de Mopti, à la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan est de 3 morts et des blessés, indiquent les FAMA, les forces armées maliennes, sans donner d'autres précisions. Face à la dégradation de la situation aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'organisation régionale G5 Sahel, qui regroupe ces 3 pays, plus la Mauritanie et le Tchad, a réactivé cette année, avec le soutien de la France, son projet de force conjointe anti-djihadiste, initialement lancé en novembre 2015. Liberia, le secrétaire général de l'ONU et tous les observateurs saluent le bon déroulement général du second tour de la présidentielle dans le pays. Les Libériens, eux, continuent d'attendre dans le calme les résultats de ce scrutin qui a opposé l'ex-star du football Georges Weah au vice-président Joseph Boakai. Le point avec Eric Manirakiza.
La Commission électorale nationale prévoit de proclamer aujourd'hui les résultats provisoires, mais n'a pas donné d'horaire précis. Son président, Jérôme Korkoya, a appelé les deux candidats à ne pas crier victoire trop tôt, soulignant que seule son institution est autorisée à l'annoncer. Les premières tendances publiées par les radios locales donnaient en tête George Weah au micro de l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Moronvia, James Batty, l'ancienne étoile africaine du football et sénateur, a dit espérer gagner.
Aujourd'hui, je sais que je gagne. On attend, mais j'espère. Et je veux dire merci à tous, parce que c'était pas facile. Après le premier tour qui est passé, et merci à tous, et joyeux Noël, et bonne année, en avance.
L'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, a salué un scrutin pacifique, transparent, libre et juste. La mission de la CEDEAO note avec satisfaction la tenue de son second tour. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de son côté appelé au respect de la volonté des électeurs, au transfert de pouvoir sans entrave et dans les délais constitutionnels le 22 janvier. Pour l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, NDI, la réussite de cette présidentielle sera une victoire pour les Libériens, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Près de trois décennies après le début d'une guerre civile, le Libéria s'apprête à vivre sa première alternance démocratique entre un président élu et Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue présidente en Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Poursuite de la contestation au Togo, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Lomé hier pour une énième manifestation contre le président Faure Gnassingbé. Les détails avec Eddy Issango.
Comme les autres fois, la revendication des manifestants est restée la même. Des milliers de manifestants brandissaient des banderoles exigeant un retour à une limitation du nombre des mandats présidentiels et la démission du président Faure Gnassingbé. Les manifestants ont à nouveau répondu à l'appel de la coalition des 14 partis d'opposition qui mobilisent depuis septembre quasi hebdomadairement. Ils sont sortis dans la rue malgré l'annonce 10 jours plus tôt d'un dialogue entre les pouvoirs et l'opposition. L'opposition a posé des conditions pour les dialogues, parmi lesquelles la libération des manifestants en prison et les retraits des forces de sécurité déployées dans le nord du pays. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, parti historique de l'opposition, estime que la balle est dans les camps du régime. Le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, a, dans une interview au magazine Jeune Afrique, promis une réforme constitutionnelle pour l'avenir et non le passé. Les pays de la région appellent au dialogue, mais l'opposition promet de nouvelles manifestations aujourd'hui et samedi.
Actualité aux États-Unis maintenant, après les voitures autonomes, les recherches s'orientent vers des engins à même de sillonner le ciel et d'atterrir sans assistance humaine directe. L'armée américaine travaille actuellement sur un hélicoptère pouvant décoller, voler et se poser en suivant uniquement les instructions entrées à l'aide d'une application. Reportage Kevin Enoch. Récit Lionel Gaïma.
Le sergent Deontay Jones des Marines américains est le pilote de cet hélicoptère, mais il ne fait rien de spécial à bord. L'appareil opère en toute autonomie, explique-t-il.
L'hélicoptère dispose d'un cerveau et réfléchit par lui-même. Mais je lui dis où atterrir et quand j'ai besoin de lui. J'ai même la possibilité de lui dire de partir ailleurs si je n'ai plus besoin de lui.
L'usager n'a pas grand-chose à faire d'autre que entrer sa destination dans l'application, souligne Dennis Becker du bureau de la recherche navale des États-Unis.
En fait, l'appareil planifie sa mission sur son ordinateur de bord. Il navigue partout où vous l'envoyez. Pas besoin de lui fournir un plan de vol détaillé. Il évite de lui-même les obstacles, les câbles électriques, les arbres, jusqu'au point d'atterrissage, exactement comme le ferait un pilote.
Pour l'armée américaine, investir dans un appareil autonome vise à sauver des vies et opérer d'une manière pratique, fait remarquer le lieutenant-colonel Don Schmidt.
Nous nous disons pourquoi envoyer un Marine dans une position dangereuse alors qu'un robot ferait l'affaire? Cela vaut également pour un gros aéronef autonome avec lequel on peut faire des choses impossibles aux équipages humains qui ont besoin de repos lors des missions en zone hautement dangereuse.
De nombreux autres secteurs suivent avec beaucoup d'intérêt ce projet du corps de marine américain, comme les sapeurs-pompiers de Californie qui font face en ce moment à des incendies de forêts ravageurs. Ils seraient ravis de disposer d'un hélicoptère autonome pouvant surveiller la progression des feux pour leur permettre de mieux organiser la riposte.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.